Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, nous parlons du zoo d'Amiens qui fait peau neuve avec 8 nouveaux territoires. Vous pourrez partir en voyage autour du monde en ne quittant pas Amiens. Les travaux qui ont débuté en 2019 devraient s'achever en 2027. Pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Pierre Boutor, le chargé de communication du parc zoologique d'Amiens Métropole. Bonjour.
Bonjour.
Donc le zoo d'Amiens, c'est un peu l'incontournable de notre ville. Il est l'établissement scientifique et culturel majeur dans la région des Hauts-de-France et c'est le 4e établissement touristique de la Somme. C'est plus de 7 hectares et 700 animaux avec 112 espèces à 2 pas du centre-ville. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire du zoo d'Amiens ?
Oui, bah c'est une longue histoire qui est liée aussi à l'histoire de la ville, à l'histoire de ce parc de la Haute-Oie aussi, qui est un élément patrimonial pour Amiens. Le zoo d'Amiens, figurez-vous qu'il va fêter ses 70 ans l'an prochain.
Et bien voilà,
c'est, ça y est, on y arrive, on se va souffler une bougie, puisque ce zoo a été créé le 22 mai 1952, à l'emplacement de l'ancien jardin botanique de la ville.
D'accord.
D'où aussi son caractère un petit peu paysager, avec ses arbres centenaires, ses cours d'eau, ses allées, un parc à l'anglaise.
C'est vrai que c'est très beau, hein, c'est des paysages magnifiques.
Tout à fait. Et d'où aussi la richesse patrimoniale que nous avons avec le pavillon bleu, qui était en fait l'entrée du jardin botanique.
Et vous organisez quelque chose pour ces 70 ans ?
On va essayer de mettre toute la saison prochaine aux couleurs des 70 ans, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est un scoop, on ne l'avait pas encore annoncé.
Eh bien, en avant-première. Donc le zoo, ce n'est pas seulement pouvoir observer des animaux, vous participez à des projets de recherche vétérinaire, éthologique ou encore ergonomique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
La recherche scientifique, oui. C'est l'une des 3 missions des parcs zoologiques avec la conservation des espèces menacées que les gens commencent à connaître.
Oui,
l'éducation du public qui est un peu moins connue mais beaucoup réalisée à Amiens, notamment avec l'accueil de près de 30 000 scolaires. Alors la recherche scientifique, c'est tout simplement pouvoir donner accès à des chercheurs qui vont faire avancer la science sans avoir besoin d'aller crapahuter au fin fond du Kenya pour, par exemple, connaître certaines maladies propres aux éléphants, par exemple. Les éléphants, nous n'en avons plus, mais
oui.
J'avais un exemple là-dessus parce qu'on avait travaillé avec nos éléphants à l'époque pour cela. Mais ça peut aussi être, ça va pouvoir aussi faire avancer d'autres parties de la science qui sont toujours inconnues. Par exemple, est-ce que vous vous posez la question le matin de savoir comment un oiseau boit ?
Non, pas du tout, mais c'est une très bonne question.
Et ben justement, des gens se posent encore la question, des chercheurs travaillent encore dessus sur le mécanisme de la prise de boisson de certains oiseaux, notamment des psittacidés, donc les perroquets, les perruches. Et nous avons, servi de terrain de laboratoire, en fait,
où
des chercheurs venaient observer nos oiseaux et les étudier.
Et vous organisez des actions internationales de sensibilisation à l'environnement et des programmes de conservation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ça aussi et comment vous procédez ?
Alors, on ne les organise pas, on les soutient
et
on y participe. Pour ce qui est de la sensibilisation internationale, on fait partie en fait d'une grande association, l'Association européenne des zoos et aquariums, qui, au-delà d'un code d'éthique, met en fait en place nos 3 missions fondamentales et vont en fait coordonner les différents programmes d'élevage. Et cette association, chaque année, ou tous les 2 ans en ce moment, nous donne une thématique sur laquelle on va travailler, on va creuser pour orienter notre politique d'éducation du public. Là, on sort de deux années, par exemple, où nous parlions de la consommation des produits des océans et de la pollution des océans. D'où derrière, ça s'inscrit dans notre programmation annuelle, on va vivre un grand jeu du week-end de Pâques, on va vivre, nous, derrière, un grand jeu d'Halloween sous forme d'un escape game, adressé notamment aux étudiants, par exemple, qui va être thématisé sur l'extinction dans les océans.
D'accord, c'est vrai qu'il y a une grosse problématique en fait, qu'on avait entendue pendant un temps sur les baleines notamment, donc je crois que ça en fait partie.
Exactement, et pour terminer la réponse à la question sur les programmes de conservation, là nous allons en fait, en parallèle de programmes d'élevage que nous menons au sein du parc, sur des espèces menacées, que nous allons reproduire pour conserver en fait un cheptel captif qui va servir un peu de filet de sécurité à la disparition de leurs homologues sauvages, mais qui vont aussi permettre de parler de l'animal en tant que lui-même, c'est-à-dire que qui parlerait des sangliers des Visayas aux gens si nous n'en envoyons pas en, chez nous, en tout cas.
Bonne question.
Et bien, en parallèle de ces programmes d'élevage, nous allons soutenir des associations, des ONG qui œuvrent sur le terrain pour protéger l'écosystème de ces espèces ou pour protéger directement ces espèces et faire du suivi pour voir comment se comporte la population sauvage.
Actuellement, le parc est fermé. Il réouvrira ses portes en février 2022. Pourquoi est-ce que le parc zoologique est fermé une partie de l'année ?
Alors, ça, c'est une stratégie. Là, pour le coup, c'est une stratégie. On s'est longtemps posé la question, parce que nous avons longtemps été ouverts toute l'année. Mais toute l'année, mais genre, ce mois-ci, c'est que les week-ends. Ou ce mois-là, il y a aussi les mercredis. Enfin, il y a un moment, dans la lisibilité, c'était compliqué. Et puis aussi pour nous, quand nous voulions mener nos travaux, nos programmes de restauration, et on devait ranger tous les outils le mardi soir parce que le mercredi on allait ouvrir. Et on s'est dit, mais et si en fait, est-ce que décembre-janvier concerne beaucoup de visiteurs ? En l'occurrence, sur les 168 000 qu'on a accueillis cette année, ça concernait à l'époque 600 personnes pour décembre, 300 pour janvier. On s'est dit, mais peut-être que pour ces gens-là, bah, on va fermer. Comme ça, nous, on peut se mettre à fond sur la rénovation du parc, les coûts de peinture, les réparations. Et comme ça, il y a une vraie nouvelle saison quand on ouvre.
Oui, c'est vrai. Je me demandais aussi si c'était pas pour laisser un peu de tranquillité aux animaux sans visiteurs.
Non, du tout. Non, alors ce n'est pas pour ça que le comportement des animaux ne change pas lors de la fermeture. Nous, on voit la différence. Tout le long de l'année, en fait, les animaux sont indifférents aux humains.
Oui.
Et lorsque l'on ferme, l'humain devient un produit rare. Et quand il nous voit dans les allées, c'est alerte générale, il y a un humain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un humain. C'est en fait le retournement de situation, c'est ce calme fait que du coup, ils se mettent en alerte.
C'est eux qui nous observent, du coup.
Et certaines études scientifiques menées dans des parcs zoologiques montrent que des grands singes, notamment les orang-outans, passent leur journée à observer les visiteurs.
Et bien voilà. Donc parlons un peu des travaux. Donc ces six nouveaux territoires, donc c'est énorme. D'où est venue l'idée de créer cette nouvelle figure du zoo ?
Alors, c'est effectivement un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux qui est porté par Amis Métropole et qui est venu d'une direction passée qui se rendait compte que le parc zoologique, en l'espace de à peine 10 ans, avait doublé sa fréquentation, attirer de nouveaux visiteurs et donc il fallait le mettre à jour pour pouvoir accueillir les gens dans des meilleures conditions, mais aussi parce que les avancées de la recherche justement les avancées au niveau éthique faisaient que nous-mêmes en tant que professionnels de la conservation nous ne pouvions plus travailler dans certaines conditions pour assurer la bientraitance de nos animaux et donc leur bien-être derrière, et donc il était tout à fait normal de rénover ce parc, de lui donner aussi une nouvelle attractivité. Comme ça, tout le monde était gagnant, les visiteurs, les animaux et les agents.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que seront ces nouveautés ?
Alors, on s'est demandé quel était le fil rouge de ce parc. On l'a dit tout à l'heure, le zoo d'Amiens a 70 ans, ça a été en fait 60 années de construction en patchwork. C'est-à-dire au fur et à mesure des possibilités, au fur et à mesure des disponibilités, des idées de chacun ou des projets de conservation que nous voulions aller. Et là, on s'est dit, et si en fait ce patchwork, on lui donnait une cohérence, un vrai message ? Et donc, on s'est dit, qu'est-ce que ce zoo veut raconter aux gens ? Quel est le message pédagogique qu'on veut que le visiteur retienne à la fin de sa visite ? Et de ce message pédagogique est parti un zoo, l'idée d'un zoo. Et on s'est dit, mais nous, on est dans une grande zone humide. On est le pendant ouest des ortillonnages. Et on s'est dit, dans ce cas, on ne parlera pas des montagnes. On parlera pas. Nous, on va parler justement des zones humides. Ça tombe bien, ça va mal pour eux, enfin pour elles. On va parler peut-être des forêts tropicales humides aussi. On a des arbres, on a des forêts, on a des primates. Et on s'est dit, avec toutes nos forces, on va en faire une thématique. Un voyage autour des zones humides menacées dans le monde. Ça tombe bien, ce sont les fameux hotspots de biodiversité, pour la plupart d'entre elles, qui dans la nature, sont les lieux chauds dans lesquels les animaux, les espèces et les écosystèmes disparaissent. Et on s'est dit, on va faire des fenêtres sur la biodiversité mondiale, une sorte de voyage autour du monde, cher à Jules Verne. On s'était dit, mais en fait, dans Amiens, il y a tout qui coche ces cases-là.
Et comment vous allez recréer ces écosystèmes tels que la côte pacifique des Amériques, des forêts tropicales d'Afrique, les berges de cours d'eau européens ou encore les savanes inondables d'Amérique du Sud, alors qu'on n'a pas du tout le même climat?
Eh bien exactement, c'est pour ça qu'on ne les recrée pas. On ne va pas les recréer, on va les suggérer.
D'accord.
On va les suggérer, ça peut passer par un changement d'échelle, ça peut passer par une plante plus ou moins locale, une plante tempérée, mais qui nous fait penser à, qui nous dépayse. L'idée du voyage, c'est le dépaysement. Donc on s'est dit, par des moyens simples, qu'est-ce qui peut dépayser notre public pour lui donner l'impression d'être dans un ailleurs? Et c'est comme ça qu'on a sorti nos deux premières zones sur les 8 que vous avez citées, qui sont donc archipel et rivage, et qui ont été ouverts au public l'année dernière en 2020. Et qui, je pense, font le travail. On les a confiées à un paysagiste. C'est pareil, on ne les a pas données ni à des architectes, ni à des zoologues, ni à un paysagiste. On voulait que cette personne, en l'occurrence les ateliers Jacqueline Osti et associés, qui ont fait le parc Saint-Pierre, on voulait que ces personnes love ces nouvelles zones dans le zoo existant sans le dénaturer. Parce que notre île de biodiversité, notre petite Otoa à nous, c'est l'annexe du parc de la Otoa sur le côté, avec ses canaux et tout ça, c'est une île de biodiversité. Il y a des chauves-souris, il y a plein d'oiseaux, il y a des petits mammifères. On ne voulait pas les déranger aussi, ces espèces-là.
Ça se comprend. Mais du coup, pour les animaux, par exemple, comment vous recréez leur environnement?
Alors, au sein de l'Association européenne des eaux aquariums, l'EASA, il y a des espèces qui sont en programme européen d'élevage, comme j'avais déjà cité, et ces programmes européens d'élevage ont des coordinateurs. Ces coordinateurs vont éditer des guidelines, des guides d'élevage, avec les besoins à mettre en place pour ces animaux, en termes de besoins fondamentaux, mais aussi en termes de besoins de sécurité, sécurité pour l'animal, pour les congénères ou pour le public. Et donc ces différents besoins nous permettent, nous, d'établir un cahier des charges sur comment héberger cette espèce dans les meilleures conditions. Ensuite, il suffit de faire ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire avec des petites touches de dépaysement que nous avons voulu très sobres, c'est-à-dire passer en gros par le végétal et faire effacer le plus possible les bâtiments ou les contentions. On n'a pas voulu mettre une pagode chinoise pour parler d'Asie. On n'a pas du tout voulu faire ça. On est allé sur des bâtiments sobres, rectangulaires, noirs, qui s'effacent. Et ce qui va être le dépaysement, c'est l'animal. C'est une espèce exotique. Et c'est le végétal qui l'entoure et son environnement.
Est-ce que ces nouveaux territoires vont rimer avec l'arrivée de nouvelles espèces ou en fait, elles vont être relocalisées dans les nouveaux territoires?
Elles sont chouettes, vos questions. Alors, la plupart d'entre elles, des espèces des nouveaux territoires, sont en fait des espèces relocalisées. Comme je vous ai dit, l'idée était surtout de donner un gros coup de jeune à ce zoo et d'héberger nos espèces dans des conditions dignes du XXIe siècle. Ça, c'est à peu près chose faite. Mais derrière, il y avait des animaux, des espèces, qui avaient été hébergées historiquement au zoo d'Amiens et qui avaient disparu depuis et qui n'étaient plus là et qui étaient réclamées par les visiteurs. Je pense notamment aux grands félins et aux girafes. Et on s'est dit, ce projet peut être pour nous une opportunité pour, ça fait 20 ans que les gens réclament des grands félins, pour faire venir au zoo d'Amiens un grand félin. Et dans ce cas, nous, on a une procédure. On se dit, ok, mais par rapport au message pédagogique, on veut raconter quoi? Par rapport au projet de conservation, on veut raconter quoi? Par rapport à la recherche, on veut raconter quoi? Et là, en cochant toutes ces cases, plus en ajoutant le côté « on est un zoo urbain », c'est-à-dire qu'il y a des riverains, on arrive à une espèce, le tigre. Et parmi les tigres, le tigre de Sumatra.
Et je crois que ces nouveaux territoires s'accompagnent de l'arrivée de nouveaux restaurants, si je dis pas de bêtises.
Là, ça fait partie, oui, comme je vous ai dit, ce grand projet de rénovation, d'extension du parc zoologique, aussi pour donner aux visiteurs un meilleur confort de visite, une nouvelle expérience de visite. Et pour donner aux visiteurs un meilleur confort de visite, déjà, il faut aussi, à lui aussi assurer ses besoins fondamentaux. Donc, ça passe, on n'y pense pas souvent, mais ça passe déjà par un accueil, ça passe par des toilettes, et ça passait par un des points de restauration. Nous avions un kiosque qui faisait le travail, qui proposait notamment des super glaces, n'était pas un argument pour dire « je peux manger au zoo d'Amiens, je vais visiter le zoo d'Amiens en une journée ». Non, c'était « le zoo d'Amiens, on le fait en 2 heures parce qu'il y a un moment, il faut rentrer manger chez soi ». On avait ce pavillon bleu qui était abandonné. qui faisait partie du projet de rénovation du parc zoologique. On a donc profité de l'enveloppe qui nous était allouée pour le précédent mandat pour entièrement rénover ce pavillon bleu et en faire une sorte de joyau, un restaurant pour le zoo.
Eh bien, je vous remercie, Pierre, d'être venu participer à l'émission. Je vous rappelle que le parc zoologique rouvre ses portes en février 2022. À plus.
À